Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Nous allons relire ce passage que nous commençons à connaître par cœur. Romains 5, les versets 1 à 11. Romains chapitre 5, les versets 1 à 11. Et voici donc la parole de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et jusque-là, la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons considéré la question « Comment est-ce que je peux être sûr que Dieu m'aime ?» Et nous avons vu que Paul a démontré dans les versets 7 à 8 l'amour de Dieu pour des pécheurs. Christ est venu pour mourir, non pas pour des justes, mais pour des injustes, pour des personnes qui ne méritent rien si ce n'est la colère de Dieu. Et Paul maintenant va continuer à nous présenter les bénéfices de cette rédemption accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous montrer pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Et il va répondre à la question suivante. Comment puis-je savoir avec certitude que mon salut est sécurisé? La Bible parle du salut de trois manières. Elle parle d'abord comme étant quelque chose, une œuvre passée. Christ est mort sur la croix, il a accompli le salut, il est mort pour son peuple, c'est une œuvre qui est passée. Elle parle aussi du salut comme quelque chose de présent, quelque chose que nous expérimentons aujourd'hui. Si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est une réalité présente, nous sommes sauvés aujourd'hui. Mais elle parle aussi comme quelque chose de futur, nous serons sauvés, en parlant de la conclusion de l'achèvement du salut, où tout sera juste, où tout le peuple sera, qui a été réconcilié avec Dieu, sera dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette troisième vue que Paul a en tête quand il écrit au verset 9 que nous serons sauvés. Et cela rejoint déjà ce qu'il a déjà dit auparavant quand il a parlé de l'espérance de la gloire de Dieu, où nous serons tous dans la gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Paul a déjà souligné que l'œuvre la plus grande, la plus coûteuse, a déjà été faite par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela, et c'est uniquement cela, qui nous donne la confiance de pouvoir nous tenir devant le trône du jugement de Dieu. Paul veut que nous soyons convaincus de cette réalité, que nous nous tenons devant Dieu sur la base de ce que Christ a fait, et uniquement sur la base de ce que Christ a fait. Il veut que nous soyons convaincus de cela, afin que nous grandissions dans notre confiance de l'œuvre de Jésus-Christ dès maintenant, dès aujourd'hui. Et quand on arrive donc au verset 9 et 10, on voit l'argument, la logique, encore une fois, de l'apôtre Paul, son raisonnement logique. Il utilise cette expression à plus forte raison dans chacun des versets. Et ce qui veut dire, si la première chose est vraie, à plus forte raison, la deuxième, qui est plus grande, est aussi vraie. Et il va utiliser cette expression plusieurs fois dans ce passage, dans les versets 9 et 10 que nous voulons voir ce matin. Mais plus loin, au verset 15, il le dira, il utilisera aussi cette expression. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et encore au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Paul veut souligner que si Dieu a déjà accompli la partie la plus difficile, la partie la plus coûteuse du salut, alors il va certainement accomplir la dernière partie, amener ce salut à sa conclusion finale. Et c'est pour ça que le croyant n'a absolument rien à craindre. S'il est uni à Christ, il l'est pour toujours. Mais vous le savez aussi bien que moi, nous sommes humains et trop souvent nous tombons dans la confusion. Nos émotions nous prennent et nous amènent dans une certaine confusion. Paul veut démêler cette confusion, il veut démêler nos émotions, il veut nous apprendre, on l'a déjà dit, on va le redire, il veut nous apprendre à réfléchir bibliquement, à voir la logique de l'Évangile et nous convaincre de façon logique que l'Évangile est le fondement, pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi le fondement de notre espérance pour ce jour qui vient, le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc la question est, quel est le fondement de notre salut? Ou si on peut poser la question différemment, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans ces versets qui nous permet de savoir avec certitude que la vie éternelle avec Dieu est sécurisée? Et il y a trois arguments dans ces versets. Le premier argument est celui-ci. Notre vie éternelle avec Dieu est sécurisée par la justification par le sang de Christ. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Au chapitre 3, on a vu l'œuvre de Christ pour obtenir cette justification. Il est devenu cette victime propitiatoire, ce substitut. Il a accompli tout ce que la loi exigeait. Il a pris sur lui les péchés de son peuple. Il a subi la condamnation à leur place, afin que la justice de Dieu soit satisfaite. Dieu, nous savons, est en colère. Il doit punir le péché. Et il doit punir le pécheur. Et il l'a fait à la croix. Il a puni son fils qui a pris la place de son peuple à la croix. Christ a bu la coupe de la colère de Dieu. Il l'a bu en entier. Il a bu toute la coupe de la colère de Dieu. C'est pour ça que Paul pourra dire plus tard, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au chapitre 4, on a vu comment recevoir cette justification par la foi seule. Et c'était la réalité déjà dans l'Ancien Testament. Que ce soit Abraham, que ce soit David ou d'autres, c'est par la foi seule, en Christ seul. Et au début de ce chapitre 5, Paul nous décrit les bénéfices de cette justification par grâce. Il a parlé que Christ est mort pour des pécheurs, mais il n'a pas encore décrit la portée, l'importance de cette mort pour les pécheurs. À la fin du verset 8, il dit, Paul écrit, Christ est mort pour nous. Mais quelle est l'importance de cette mort? Il va nous le dire au verset 9, à plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes justifiés, c'est une réalité. Nous avons vu que la justification, c'est une déclaration, c'est un terme qui vient du tribunal, c'est une expression qui est juridique. Au chapitre 4, verset 11, Paul a parlé de la justice qui est imputée sur ceux qui croient. Dieu nous considère comme justes et nous déclare justes à cause de la justice de Christ qui nous a été donnée, qui a été mise sur notre compte, qui nous recouvre, comme le dit ce cantique, couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Tout ce que Jésus-Christ a accompli dans sa vie, que ce soit ses paroles, que ce soit ses actes justes, que ce soit ses pensées, que ce soit ses prières justes, ses actes d'obéissance à ses parents, ses actes de bienveillance envers ses disciples, ses paroles, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, cette justice qu'il a obtenue en obéissant à la loi parfaite, de manière parfaite, cette justice, il la donne, elle est imputée sur tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Et c'est devenu notre justice. Christ, notre justice. Quand la Bible parle de justification, elle le met en rapport aussi avec deux autres termes. Elle met en rapport avec l'expiation, c'est-à-dire l'enlèvement de la culpabilité. Quand Dieu nous pardonne, on a vu cela au chapitre 4, verset 7, où David écrit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. » Dieu enlève nos fautes, il enlève notre culpabilité. Mais il y a aussi le terme de propitiation. Et Paul pense plutôt à ce terme ici, à ce terme dans ce passage. Il en a déjà parlé au chapitre 3, verset 25. C'est lui, c'est Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il l'avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Paul veut dire que la colère de Dieu a été satisfaite par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a pris toute la colère de Dieu, cette colère qui nous était destinée, et il a bu cette coupe jusqu'à la dernière goutte. Jésus n'a pas seulement apaisé la colère de Dieu, il a éteint cette colère en l'avalant entièrement. Il a subi cette colère dans sa totalité. C'est pour ça que Paul peut écrire, nous sommes justifiés par son sang. Le sang devait couler, la vie devait être offerte, le substitut devait mourir pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Et c'est quelque chose qui a été annoncé dès le jardin d'Éden. Dieu a mis à mort un animal, le sang a coulé, il a revêtu Adam et Ève de cette peau de cet animal innocent. Adam et Ève en ont parlé à leurs enfants. Et plus tard, Abel a compris et il a cru. Et quand il s'est présenté devant Dieu, il a offert un sacrifice de substitution. Il a offert ce sacrifice sanglant. Caïn, lui, s'est contenté d'offrir le produit de son travail, de ses œuvres. Le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté par Dieu. Et Caïn a tué son frère. Et depuis, on a cette opposition entre la religion des œuvres, quel que soit le nom qu'on lui donne, et la foi dans un substitut. Dans un substitut qui accomplit l'œuvre, qui donne sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Paul parle de cette justification et de cette propitiation. Il ne reste rien de la colère de Dieu pour nous. Elle a été déversée entièrement sur le Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En d'autres mots, au tribunal de Dieu, la justice de Dieu a déjà été satisfaite en Jésus-Christ. Cela rejoint bien sûr ce qui avait été annoncé dans tout l'Ancien Testament, et on pense particulièrement à ce chapitre 53 d'Ésaïe. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et Paul dit, si cela est vrai, et il a montré que c'était vrai, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Bien sûr, il parle ici de la colère de Dieu qui se manifestera au jour du jugement dernier. Et celui qui est en Christ, qui est justifié, n'a rien à craindre. Christ a bu toute la colère de Dieu qui devait tomber sur lui. Le chrétien, celui qui est en Christ, est sauvé de cette colère. Et il sera sauvé au dernier jour, au jour du jugement. Jésus-Christ lui-même le dira d'une autre manière, en Jean 5, verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'a rien à craindre de la colère de Dieu au jour du jugement. Il est déjà passé de la mort à la vie. Ceux qui se confient dans le Seigneur Jésus-Christ peuvent avoir cette assurance que nous serons sauvés de la colère à venir. Christ a payé la rançon dans sa totalité. Il n'a pas payé un acompte en nous laissant le soin de payer le reste. Non, il a payé la rançon dans sa totalité. Il a payé le prix de notre rachat dans sa totalité. C'est ce qu'il a crié sur la croix. Tout est accompli. Absolument tout. Paul dit, étant donc justifié par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés de la colère de Dieu. Notre position légale, notre position judiciaire a changé devant Dieu. Il nous a maintenant déclarés non coupables, il nous a déclarés justes à cause de Christ. Et Dieu serait injuste s'il revenait sur cette déclaration. Or, il ne le fera pas. Il ne peut pas revenir sur cette déclaration. Il nous a déclarés justes en Christ. Et c'est ce que nous sommes. Il n'y a plus de condamnation en Christ, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Christ, la justice de Dieu n'exige plus rien. Elle a été satisfaite par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier argument de l'apôtre Paul. Notre salut futur est garanti en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi seule, en Christ seul. Mais je pense que comme vous, comme moi, nous avons besoin de toute la vie pour réellement comprendre la profondeur de cette réalité. Nous avons besoin que cette réalité vraiment prenne racine dans nos cœurs, que nous soyons de plus en plus convaincus que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ est toute suffisante pour nous. Parce qu'il y a cette tentation pour tout croyant de mélanger cette justification, cette déclaration de Dieu à notre sujet, que nous sommes non coupables, que nous sommes justes à ses yeux à cause de Christ, avec la croissance dans la grâce, une croissance où malheureusement nous chutons, où nous avons besoin d'être repris, nous avons besoin d'être corrigés. Mais quand Dieu nous corrige, et nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 12, quand il nous corrige, ce n'est pas par colère, parce qu'elle a déjà été déversée sur Christ. Quand il nous corrige, c'est par amour. Comme un père corrige ses enfants par amour. Parce que Dieu a commencé en nous une œuvre qu'il va mener à la perfection pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Il nous transforme à l'image de son Fils pour que nous soyons prêts pour ce jour de son retour dans la gloire. Donc nous n'avons pas confondre les deux, la justification, cette déclaration de Dieu et la croissance dans la grâce. L'œuvre de Jésus-Christ est toute suffisante. Il n'y a absolument rien à rajouter. La croissance n'est pas aussi parfaite que nous aimerions qu'elle soit. Nous sommes conscients de nos chutes. Si nous regardons à la vie chrétienne comme la base de notre acceptation devant Dieu, alors nous n'avons plus de certitude. Nous avons des doutes parce que nous savons très bien que nos vies sont imparfaites. Mais la justification, elle, elle est parfaite. Elle, elle est entièrement parfaite. La parole de Dieu nous dit que des pécheurs qui se confient dans le Seigneur Jésus-Christ sont justifiés, déclarés justes par Dieu lui-même à cause de la justice de Christ qui leur est imputée. Et c'est la base de notre acceptation devant Dieu. Seul l'Esprit peut nous convaincre de cela et l'Esprit nous a été donné à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Paul l'a dit au verset 5. Si on voit la vie comme étant une vie où on obtient la justice par les œuvres, alors il y a de l'incertitude, il y a même une certaine peur, parce qu'on réalise qu'il n'y a jamais assez de justice en nous-mêmes. La confiance dans une vie où l'on obtient la justice par les œuvres ne pourra jamais produire une sécurité, parce que cette confiance est basée sur ce qui va se passer dans le futur, ce que nous allons faire ou espérons faire, envisageons de faire dans le futur. Mais Paul dit non. Votre salut est fondé, basé sur ce que Christ a déjà accompli à la croix. Et cela garantit l'accomplissement, la conclusion de ce salut. Vous pouvez donc avoir cette certitude d'être un jour dans la présence de Dieu. On ne peut absolument rien rajouter. Par certaines personnes nous répondent, parlent de cet équilibre, cette balance entre le bien et le mal qu'on peut faire. Mais si on regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il répond à ces pharisiens qui posent la question, qui lui demandent « Mais quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais si on pose la question, qui est-ce qui aime Dieu de tout son cœur? Qui est-ce qui aime Dieu de toute son âme, de toute sa pensée? Qui est-ce qui aime son prochain comme soi-même? La réalité, c'est que personne ne le fait. Personne ne fait ces choses. Et Paul, nous l'avons déjà vu, résume cela au chapitre 3, verset 19. Nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça, c'est la réalité. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Si nous nous reposons sur nos œuvres pour obtenir la justice, nous ne l'obtiendrons jamais. Nous ne l'obtiendrons jamais. Nous serons toujours dans la peur, dans l'incertitude, ne sachant pas si nous avons fait assez. Et Paul veut enlever tout doute de notre esprit. La justice, c'est Dieu qui nous la donne en Jésus-Christ. Christ a tout payé. Il a payé la totalité de notre rançon. Il n'y a absolument rien à rajouter. C'est le premier argument donc, de l'apôtre Paul. La justification par le sang de Christ a sécurisé notre salut futur. Nous pouvons avoir cette assurance que ce salut arrivera à sa conclusion, que nous serons dans la présence de Dieu à cause de la justification par le sang de Christ. Deuxième argument de l'apôtre Paul, notre vie éternelle avec Dieu est sécurisée par la réconciliation avec Dieu par la mort de son Fils. C'est le verset 10. « Car si, lorsque nous étions ennemis, Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Encore une fois, il s'appuie sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, ce que Christ a fait. Christ n'est pas seulement venu pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, mais pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il va plus loin que la justification. La justification est quelque chose de légal, de judiciaire, mais nous sommes légalement en règle avec Dieu. Par contre, la réconciliation est quelque chose de personnel, de relationnel. C'est cette relation entre Dieu et nous. Dieu ne se contente pas d'éteindre sa colère en Christ, mais il veut développer une communion avec son peuple. C'est le langage que Paul utilise ici. Quand il parle de nous, nous l'avons vu dans les fois précédentes, il nous décrit comme étant sans force, comme étant impie, comme étant pécheurs, versets 6 à 8. Maintenant, ici, il nous décrit comme étant les ennemis de Dieu. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. La Bible nous décrit cette réalité que par nature, nous sommes devenus les ennemis de Dieu. Il y a cette inimitié entre Dieu et nous. On pense par exemple au psaume 2, où on peut résumer cela comme l'incroyant qui brandit le poing devant Dieu et qui lui dit « Je ne veux pas ton autorité sur moi. Je me rebelle contre toi. » Mais Dieu aussi est en colère. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Il est séparé de l'humanité. Il est l'ennemi de l'humanité. Nos péchés nous ont séparés de Dieu. Dieu est en colère contre les pécheurs. Apocalypse 19, verset 15, parle de la cuve, du vin, de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et on retrouve cette même image en Ésaïe 63. Parle de Jésus-Christ, qui, verset 3, qui dit ceci, « J'ai été seul, la foulée oppressoire. Nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. » Et Paul pense à cette colère de Dieu. À cause de cette colère, nous sommes séparés de Dieu. Le péché, ce n'est pas simplement ne pas obéir à certaines lois. Non, c'est le fait de briser cette relation avec Dieu, notre Créateur. Nous avons rompu cette communion avec lui qui existait dans le jardin d'Éden. Nous avons rompu cette communion par le péché et à cause de cela, Dieu est notre ennemi. Mais heureusement que la parole de Dieu ne s'arrête pas là et qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, 1 Timothée 2, verset 5. Parfois, on pense que oui, Dieu m'a pardonné, mais on n'est pas sûr que Dieu soit content de nous. On n'est pas sûr que Dieu ait de l'affection pour nous. Oui, il a éteint sa colère en Jésus-Christ, mais est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il se soucie de moi? La parole de Dieu nous dit que oui, Dieu ne se contente pas de nous tolérer, mais Dieu se réjouit dans son peuple. Psaume 80, par exemple, il y a ce refrain qui revient plusieurs fois, « Fais briller ta face et nous serons sauvés. » Et Dieu a fait briller sa face. Il nous a sauvés à cause de la réconciliation qui a été effectuée par le Seigneur Jésus-Christ. Il nous appelle maintenant ses enfants. Paul dira un peu plus loin, Romains chapitre 8, les versets 14 à 16, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et cet esprit nous a été donné. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Et le jour vient où nous serons avec lui, comme nous l'avons vu en Apocalypse 21, cette vision qui décrit le tabernacle de Dieu, et c'est décrit comme étant la Nouvelle Jérusalem. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Voilà l'espérance de la gloire dont Paul parle ici en Romains chapitre 5. Être habité dans la présence de Dieu pour toujours, parce que nous avons été réconciliés, parce qu'il n'y a plus de séparation, il n'y a plus d'inimitié entre Dieu et nous, à cause de Jésus-Christ. Et Paul de rajouter au verset 10, « Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ?» Et Paul, quand il parle de la vie de Jésus-Christ, parle ici de sa vie après la résurrection. Nous aussi, unis à Christ, nous allons connaître cette résurrection à cause de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Rien ne pourra nous éloigner de cette espérance de la gloire céleste, de la vie éternelle dans la présence de Dieu. En chapitre 8, versets 37 et 39, à 39, Paul dira ceci, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Notre vie est cachée en Christ. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Et rien, ni même des choses que nous pourrions faire, ne pourra nous rendre plus réconciliés avec Dieu. Nous sommes parfaitement réconciliés avec Dieu par l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par son sang, nous sommes réconciliés par sa mort. Troisième argument, notre vie éternelle avec Dieu est sécurisée par le salut accompli par le Fils de Dieu. Et nous avons ici la première référence à Christ comme le Fils de Dieu dans cette lettre aux Romains. Verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » C'est par la mort du Fils de Dieu que nous sommes justifiés, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Tout ce qui est accompli ici est accompli par la mort du Fils de Dieu. Et nous ne pouvons rien rajouter. C'est par son sang, c'est par sa mort. Pendant des siècles, Dieu a envoyé des prophètes à son peuple et puis il a envoyé son Fils. On peut imaginer le Père, Dieu le Père, dire au Fils, « Il y a une œuvre à faire. J'ai aimé et j'aime un peuple que j'ai choisi depuis toujours. Es-tu prêt à aller accomplir le salut de ce peuple ?» Et le Fils répond, « Oui, j'y vais. » Le Père a dû regarder son Fils avec agonie. Il savait que cela allait impliquer l'humiliation en tant que serviteur, la souffrance terrible sur la croix, la mise à mort brutale dans son Fils. Mais le Fils a été fidèle en tout point. Le Fils a obéi à son Père en toutes choses. Il a accompli tout ce que le Père lui a demandé d'accomplir. Et le Père a glorifié le Fils. Il l'a élevé à sa droite, l'a fait asseoir à ses côtés. Jésus dit en Jean 10, verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Et une question, si nous sommes unis au Fils par la foi, si nous sommes unis au Fils, ce Fils que le Père aime, est-ce que Dieu peut nous condamner au jour du jugement? La réponse est non. Parce que s'il nous condamnait, il reviendrait sur tout ce que le Fils a accompli. mais le Père a tout accompli par son Fils. Il a tout accompli, il a accompli ce salut par son Fils qu'il nous a donné comme substitut, comme sauveur. Nous pouvons donc être confiants que nous sommes justifiés, réconciliés avec le Père par l'œuvre parfaite du Fils. Il n'y a absolument rien à rajouter. Et ce salut viendra à sa conclusion. Et nous serons dans la gloire avec le Fils pour toujours. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous ne sommes pas en sécurité à cause de notre propre justice. Notre justice, elle est souillée. Nous sommes en sécurité parce que le Père aime le Fils et tous ceux qui sont unis au Fils par la foi. La question donc est, pour nous ce matin, où est notre confiance? Devrais-je dire, où est la totalité de notre confiance? Est-ce qu'elle est dans le Fils, dans le Seigneur Jésus-Christ? Oui, la vie est difficile, même la vie chrétienne est difficile. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de tentations. L'adversaire ne se repose pas. Il cherche à nous tromper et malheureusement, nous sommes conscients de nos chutes. Mais en Christ, nous sommes en sécurité. En Christ, nous sommes en sécurité. Si nous nous reposons en nous-mêmes, si nous nous reposons dans notre capacité à plaire à Dieu, nous n'aurons jamais ce sentiment de sécurité. Mais Paul ne cesse, et Paul veut que nous réfléchissions bibliquement, et Paul le souligne ici, à plus forte raison. Nous serons sauvés parce que Christ nous a déjà justifiés. Il nous a déjà réconciliés avec Dieu. Et il a tout accompli pour sauver ce peuple que le Père lui a donné. Notre sécurité, elle est en Christ et dans l'œuvre parfaite qu'il a accomplie. Que Dieu nous donne la grâce de nous reposer entièrement et uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.